pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Midi, 4 minutes, il fait super beau et ce sera la même chose ce soir. Je vais faire quelque chose, Pascal, ce soir que je n'ai jamais fait.
Enfin!
C'est-à-dire, en fait, je l'ai fait une fois. Donc, il sera son remplaçant. Je l'ai fait une fois avec mon père dans le vieux Colisée de Québec où j'avais vu la lutte. J'avais vu, est-ce que c'était le géant ferré? Est-ce que c'était Hulk Hogan? De mémoire, c'était tous ces gens qui étaient si impressionnants que ça quand j'étais jeune. Puis là, ben, Denis va remplacer mon père. Ce soir, il m'amène à la NSPW, la 500e. Je suis nerveux!
Hey, je suis tellement content que tu aies accepté l'invitation. Ça va permettre de calmer les esprits de tout le monde. Puis en même temps, ça va te faire constater à quel point, tu sais, dans notre cours, on ne réalise pas le bassin de talent, d'athlétisme, de passion. Puis le gap entre ce que tu vas voir ce soir au stade municipal puis ce que tu peux regarder à TV à toutes les semaines... Il n'est pas si grand que ça.
Y a-t-il de la bière? Gosses...
Oui, il y a de la bière.
Ça va y en prendre. Va être stressé juste de voir certains Steve?
Non, ça, ça ne me stresse pas pendant tout.
T'as-tu peur de le croiser, ouais?
Non, pas du tout.
Moi, il m'a dit que il était cool avec ce qui s'est passé puis tout.
Il n'est pas cool. Si il passe son temps à m'écœurer sur son Facebook. Il n'est pas cool pendant tout.
Si tu viens ce soir. Mais je suis content. Je pensais que tu allais te choquer. Puis tant mieux, tant mieux.
Il choque tout le temps tout, fait que t'es vraiment chanceux pour vrai.
Tu sais quoi, aujourd'hui, il annonce beau. Ce soir, il annonce beau aussi, mais il va y avoir de l'ombre au stade Canac.
Ah, quand tu vas arriver, tu vas
toujours surveiller son ombre.
Écoute, il y en a qui font plus d'ombre que toi au stade Canac ce soir, je te le confirme. Quand tu vas tomber en avant de Matt Falco,
ouais, il est pas petit, lui.
Non, il est pas petit, puis il a un petit look. Il y a un petit look Jason Momoa que les filles ne détestent pas.
Ouais.
Oh, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Il y en a pour qui on le déteste moins.
Tu vas-tu être là, Pascal?
Ce soir, ouais. Te voir être bavé avec quelqu'un.
Ben
et
non, mais
je vais
être avec Denis.
Ben,
je
suis pas là,
Denis.
Moi.
Tu m'as dit que tu m'amenais.
Je t'invite, mais je suis pas là.
Wow.
C'est poche, hein? J'ai le cœur brisé parce que ce soir, je monte à l'Assomption pour un show de musique. Le dernier show de la carrière de Serge Loca, claviériste d'harmonium. Okay. Genre de bébite qu'il y a juste moi qui s'intéresse. Là.
Ah, ouais.
Je monte avec mon chum Antoine, puis on s'en va justement à l'Assomption. Serge Loca, qui a tellement été important pour le son d'harmonium, parce que quand il est arrivé, ça a été le deuxième album, la cinquième saison, l'album progressif avec le son des claviers de l'époque et ainsi de suite. Il y a 4 musiciens d'harmonium ce soir au show.
Arrête donc! Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus publicisé que ça?
Je pense que c'est un gars qui est très discret. C'est un musicien qui a continué de faire de la musique, mais tu sais, dans des groupes de cover et ainsi de suite. C'est un gars qui est gêné, je pense, d'avance. Là. Puis il a annoncé son show de retraite, puis c'est par la suite que se sont greffés des musiciens d'harmonium qui ont dit « Hey, c'est le dernier de Serge Loca, je veux être là.
Okay. »
Fait que Louis Valois va être là ce soir. Monique Fauteux va être là, puis ça risque d'être un show haut en émotion, puis je pense que c'est la première fois depuis 1977 qu'il y aura eu autant de musiciens d'harmonium sur scène pour jouer du harmonium.
Bien, je trouvais que c'était une époque que j'ai manqué, là. Tu sais, vous autres, vous avez peut-être vécu certaines bribes de tout ça, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bien, c'était des... Moi, je trouve que c'était des grands. C'est, dans ces époques-là, c'était des grands, c'est de la grosse musique. Si vous passez l'heptade au complet, là, mettez ça bien fort là, dans une ambiance X.
Écoute, le premier album d'harmonium est le meilleur album folk de l'histoire du Québec. Le deuxième album d'harmonium est le meilleur album progressif de l'histoire du Québec. Puis le troisième album d'harmonium, l'heptade, est le meilleur album symphonique de l'histoire
pour
du
moi,
Québec.
Pour moi, c'est inimaginable où ça te transporte si tu prends le temps de l'écouter. T'écoutes pas ça quand il y a plein de monde autour de toi puis qui te parle puis tout. Là, dans ta bulle, avec un bon système de son, quand il pleut, puis un peu sombre chez vous.
Donc, à tes yeux, à toi, ça va être un spectacle historique.
Hey. Oui, puis tu comprends que pour manquer le 500e gala de la NSPW, ça prenait vraiment quelque chose de spécial.
Parle-nous-en lundi, OK?
Mais tu sais, en réfléchissant, ça m'apprendra à ne pas avoir une grande connaissance élaborée du français. Parce que moi, quand il m'a dit « je t'invite », je pensais qu'il était avec moi, mais « je t'invite à aller voir ». Tu sais, ça voulait comme dire d'autres choses.
Oui, mais j'ai toujours été l'entremetteur. Dans le fond, techniquement, c'est Steve qui t'invite. C'est Steve Boutet de la NSPW qui t'invite. Il a tendu une branche d'olivier, il a son orgueil, t'as le tien, je comprends ça, faut que je joue l'entremetteur, j'étais un petit peu mal à l'aise, mais je suis content parce qu'on va se rendre. J'ai très hâte de t'entendre lundi, j'ai hâte d'entendre tes excuses, j'ai hâte...
Il n'y aura pas d'excuses, je ne l'ai pas insulté, il s'est senti insulté, je ne l'ai pas insulté.
T'as sous-entendu...
Qu'il y avait des lutteurs qui n'étaient pas top shape.
C'est ça.
Puis lui a dit, tous mes lutteurs sont... pas mal plus en shape que toi.
C'est vrai.
Je trouve pas ça très gentil, moi, de dire « Oh, il y a un temps! » Moi, je trouve que quand... ça, c'est fait, sans insulter quelqu'un, c'est bavé.
Denis Gravel avait une tâche à faire. «
Oh, il y a un temps! »
Denis Gravel avait une tâche à faire, c'est-à-dire de l'empêcher de passer.
J'étais en état de choc.
Vous ne passerez pas.
J'étais en état de choc. Ouais, je suis pas Gandalf, moi, là.
Quand on regarde sur la vidéo, on voit clairement que Denis l'a invité à venir
il
me rencontrer.
Il se tasse en te pointant. Puis tu sais, Yannick, si, mettons, tu avais été gentil au début de l'émission, je t'aurais accompagné ce soir.
Tu veux?
Mais si tu. Tu sais, moi, en tout cas, je suis rendue organisatrice d'événements. Yannick, il dit je n'irai pas.
Ben là.
Ben, fait que je n'irai pas ce soir, Yannick.
Non, je vais être seul comme un grand. Là, je vais me trouver des amis là-bas.
Oh, petit!
Ouais, il y en a plusieurs qui t'attendent
oui,
là-bas.
Oui, ils ont l'air
ouais.
tellement amis. Là.
Il y en a plusieurs qui veulent être ton ami là-bas.
Hey, Denis, dans le Pit Stop, on parle de sobriété énergétique. Yes. Hydro-Québec qui veut connaître toutes les habitudes de consommation d'énergie des Québécois, comme si Hydro-Québec ne le savait pas. Vous avez juste à regarder nos factures. C'est vous qui nous facturez. Donc, vous savez ceux qui consomment plus d'énergie versus ceux qui en consomment moins. Mais il y a un sondage actuellement qui est fait par la firme Somme. Et je ne sais pas si toi, tu serais prêt à répondre à ces questions-là, mais je trouve que c'est des questions qui rentrent un peu dans notre vie. Puis j'ai juste le goût de dire, c'est pas de vos affaires à chaque fois. Ils vont poser dans ce fameux sondage-là, dans votre ménage, pendant l'hiver en général, à quelle fréquence adoptez-vous le comportement suivant? Prendre des douches ou des bains le matin? Ben, la plupart des Québécois prennent leur douche le matin.
Oui.
Un bain, il faut être relax. Là,
regarde, mais... je présumerais pas pour les autres. Moi, j'ai pas le temps de prendre un bain le matin, mais je prends ma douche avant de venir ici.
Pour vrai, il y a du monde. Si jamais 88-971-1021, c'est vendredi, ça m'intéresse.
Bain?
Le matin.
Ça se peut. Il reste encore des maisons ancestrales où il n'y a pas de. Des maisons. Ouais, c'est ça. Où il n'y a pas de douche. Ou c'est juste un gros
mais
bain
là,
sur pied.
Peu, là,
c'est pas le bain mousse avec trois épisodes encore. De Netflix dans ce temps-là à 7h30 du matin.
J'aimerais ça savoir le pourcentage de gens qui ont juste un bain maison. Puis on parle pas d'un bain douche. Là. Juste
c'est
un
des
bain.
Maisons ancestrales. Je suis pas mal dans l'immobilier. Là,
oui.
Puis j'en vois encore régulièrement
qu'il
des vieilles
juste,
maisons.
Juste un bain.
Des gens de 80 ans qui disent nous on est pratiquement nés dans cette maison-là.
C'est
le temps de vendre.
Ils font quoi? Ils mettent le tuyau dans, comme quand j'étais jeune, dans. Tu sais, mettons, c'est un tuyau que tu mets dans la robinetterie.
Ils prenaient 2-3 bains par semaine. C'était comme ça.
Ils se lavent le soir.
Ah oui,
nous, on avait une grande affaire qu'on mettait dans la robinetterie, là, dans le bain, là, pour laver nos cheveux, mais c'est encore ça, ces gens-là, Yannick.
Oui. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de dire au gouvernement que l'hiver, je prends une douche le matin puis je prends une douche le soir avant de me coucher. Ça m'intéresse pas de dire au gouvernement que l'été, parfois, quand il fait chaud puis j'étais à l'extérieur, j'en prends 3 douches.
De toute façon, que tu y dises ou pas, je suis un peu d'accord avec toi. Ils ont rien qu'à regarder ton bill d'électricité.
Ben,
ils savent déjà les pics sont où.
Sur Hydro-Québec, sur le site, là, si vous cliquez sur un bouton genre revoir ma consommation, ils vont même vous dire qu'est-ce qu'ils consomment combien. Tu vois douche, tu vois piscine, tu vois électricité, tu vois... Écoute, c'est super précis.
Dans les quartiers, les maisons se ressemblent beaucoup. Là. Des fois, c'est comme 4-5 maisons qui sont à peu près pareilles. Mm-hmm. Ben, tu peux voir la différence d'électricité qui consomme plus que les autres. Puis je continue, Denis, avec les questions. Dans votre ménage, pendant l'hiver en général, à quelle fréquence adoptez-vous le comportement suivant? Faire la lessive, donc utiliser la laveuse ou la sécheuse le matin.
Ben moi, dès que le panier est plein, je pars un lavage. Là, je regarde pas l'heure, là, matin, midi, soir. Quand le panier est plein, il faut que je lave. J'ai pas le choix.
Est-ce que tu le fais le soir?
Oui, ça arrive.
Hydro-Québec veut le savoir. Dans ton ménage, Denis, pendant l'hiver en général, à quelle fréquence adoptez-vous le comportement suivant? Laver la vaisselle, lavage à la main ou lave-vaisselle le matin? Lavage à la main ou lave-vaisselle le soir?
La vraie question, c'est... En pourcentage, c'est quoi le pourcentage de Québécois qui font attention à leur consommation d'électricité par rapport à la quantité ou par rapport aux saisons ou par rapport aux pointes? C'est peut-être la seule question qui est bonne. Moi, personnellement, j'ai pas cette conscience-là. Quand j'ai une vaisselle à faire, je regarde pas l'heure, je regarde le besoin. Le lave-vaisselle est plein, je le pars. Puis je pense que pour bien du monde, c'est le comportement qu'on a quand on vit en famille, dans un beat où tout le monde travaille, tout le monde a des responsabilités. Le ménage, on n'aime pas ça personne, fait qu'on essaye de pas accumuler. Il y a du linge sale, on part la laveuse. Je regarde pas l'heure, je regarde pas. Est-ce qu'on est dans une pointe de consommation d'hydroélectricité? Je vais être un citoyen responsable. Je ne prends pas ce temps-là, je plaide coupable. Je regarde jamais l'heure.
Ben, on est plusieurs comme ça. Est-ce que tu fais ta run du vieux bonhomme un soir avant de te coucher?
Tu veux dire?
Tout éteindre les lumières, barrer les portes.
Ah, je fais ce run-là 10 fois par jour, Marceau. Mais il y a personne qui éteint les lumières chez nous à part moi.
Ouais, c'est
je barre mes portes. Ouais, je fais ma run de bonhomme.
On fait la run de bonhomme, puis après ça, on se couche. Il y a personne qui dort avec toutes les lumières allumées dans la maison. Là.
Mais dans ma run de bonhomme, je vais partir un lave-vaisselle s'il faut que je parte un lave-vaisselle, puis je vais partir un lavage s'il faut que je parte un lavage.
Ouais. Quand tu te promènes le soir, là, puis tu regardes les autres maisons, tu es dans la rue, là, tu te promènes sur le trottoir, tu te promènes avec ton chien ou encore avec tes enfants, là, tu regardes les autres maisons, c'est-tu hyper illuminé là, jusqu'à 2-3 heures du matin?
Ben, les.
C'est sobre.
Les lumières principales qu'on voit dans les maisons, c'est les TV. Là.
Oui?
Ouais. Il éclaire le salon avec ça, c'est bien correct.
Est-ce que ça nous prouve que le gouvernement actuellement est dans le trouble? Ils ne savent pas comment faire pour passer au travers. La demande énergétique, ils ne sont pas capables de pallier à cette demande-là. Il n'y a pas de projet de barrage. Un projet de barrage au Québec, c'est entre 10 et 15 ans. Il n'y a rien entamé là-dessus.
C'est dur, hein, parce que quand on a nationalisé l'électricité, l'idée, c'était justement d'en faire un fleuron. Puis là, on a l'impression de juste être des clients d'Hydro-Québec, alors qu'on devrait être les propriétaires d'Hydro-Québec dans une certaine mesure, qu'on devrait continuer de voir grand. Quand René Lévesque a fait le move, l'idée, c'était ça. C'était l'or bleu, c'était l'hydroélectricité, c'était de l'amener ailleurs, mais de toujours avoir quelque chose de préférentiel pour les Québécois parce que c'est sur notre territoire et ainsi de suite. Mais quand on sonde nos habitudes comme ça, quand la SAQ sort une carte juste pour vérifier qui consomme quoi, comment et tout ça... On nous traite comme des clients, comme Walmart traite ses clients, puis c'est une façon de voir les choses qui n'est pas supposée d'être cette façon-là quand tu as un monopole. Tu sais, mettons que moi je dis « Hey, Hydro-Québec, fuck off, je m'en passe », va falloir que je me passe de l'électricité chez nous, là, à moins que tu m'offres une alternative que moi je ne connais pas, là, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc on est condamné à payer leurs factures, on est condamné à recevoir l'électricité qu'ils nous envoient, puis à partir de ce moment-là, de mesurer nos habitudes de consommation. Faut nous montrer les résultats. Moi, c'est la première chose qui me trouble dans cette nouvelle-là. Ils font des sondages, ils font des études, mais ils ne veulent pas partager les résultats avec le public. Techniquement, c'est nous autres qui payons pour ces sondages-là. Fait qu'on devrait voir les résultats et être à même de voir est-ce que vous faites ça pour les bonnes raisons? Est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça, nous autres, que l'hydroélectricité, par exemple, pourrait doubler de prix pendant des périodes hivernales de haute consommation, à certaines heures de pointe? Il y a bien des gens qui vont grogner, Marceau, parce que on n'a pas cette malléabilité-là dans notre journée. Il faut partir à 7 heures, parce qu'on commence à travailler à 8 heures. Okay. On revient à 5 heures. Les moments où on peut partir le lave-vaisselle, prendre nos douches, partir la laveuse, on ne peut pas jouer avec ça beaucoup, là. Ben du monde, en tout cas.
Parce que quand Pierre Fitzgibbon nous parle de gens qui consomment beaucoup trop d'électricité, qui ne regardent pas ce qu'ils font et tout ça, je me dis, mais moi, je ne suis pas entouré de ces gens-là. Pierre Fitzgibbon est entouré de qui, t'sais? Moi, là, les gens, ils font toute leur run de bonhomme le soir. Ils ferment toutes les lumières, ferment toutes les portes, s'assurent que ça coûte pas trop cher, puis après ça, ils se couchent.
Je connais pas grand monde qui font l'inverse. « Hey, je vais aller me coucher, m'allumer toutes les lumières. »
Mais hein? C'est ça. Mais Pierre Fitzgibbon a l'impression que les Québécois dépensent et dépensent de l'électricité, puis peut-être qu'il y a des statistiques auxquelles moi, j'ai pas accès. Mais quand je me promène en ville, puis je vois les édifices gouvernementaux qui sont allumés pendant toute la nuit, je me dis peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Pis...
On part pas à bonne place. Puis ça, t'as raison. Les entreprises, les industries, les édifices gouvernementaux. Ouais.
Je salue mes amis dans l'entretien ménager parce qu'eux autres, ils travaillent le soir et la nuit. C'est important de leur laisser les lumières. Mais à partir du moment où le ménage est fait, capable de former un switch, je peux dire merci, bonsoir.
La meilleure façon que les gens adoptent un comportement, c'est de montrer l'exemple. On a eu une histoire dans l'actualité cette semaine là, d'une école où ils voulaient interdire le cellulaire. La seule façon que ça marche, c'est que les profs le fassent. Si les profs le font pas puis qu'ils gardent le cellulaire, pensez-vous que les élèves vont avoir le goût de le faire? C'est sûr que non. Ça passe par l'exemple. Si je demande à mes kids de lâcher le sel puis que je suis tout le temps sous mon sel, ce qui est le cas, j'ai un problème que je dois régler rapidement. Ça marchera pas. Donc, si le gouvernement veut qu'on fasse plus attention qu'on fait là, alors que par réflexe, je pense qu'on est nombreux à le faire déjà, bien qu'ils le fassent avec leurs édifices, qu'ils le fassent avec les industries, puis qu'ils commencent par là, montrent l'exemple, les gens vont suivre.
Mais il s'adresse à qui? Tu sais, quand il dit qu'on dépense l'électricité. Moi, je fais attention. Là, ma douche, c'est pas une douche de 25 minutes.
Quand tu pars ta laveuse, il y a de quoi dedans? T'as pas juste pour la partir.
C'est ça.
Ouais. Puis, hey, moi, je vais partir le four, j'ai rien à faire aujourd'hui.
Puis toi et moi, c'est pas grave. On habite dans des maisons. Fait que si on part la laveuse, ça dérange pas personne autre que nous autres ou encore nos enfants. Mm. Si on part la lave-vaisselle, c'est des lave-vaisselles qui sont pour la plupart très silencieux. On va l'entendre un peu, mais c'est dans nos maisons puis on dérange pas personne. Mais dans les édifices à logement, Pascal, les édifices à condo, je veux dire, tout le monde va s'endurer de même.
C'est la loi de la tondeuse, hein? Faut que tout le monde se fasse attention.
Tu sais, quand la laveuse se vide, là, ouais. Puis t'entends l'eau descendre, là, mon voisin en haut, il descend, son cycle de lavage vient de finir.
Il était co-responsable, mais il me réveille.
Co-responsable. Fitz fait pas ça. Il habite pas dans un logement, puis il sait pas ce que ça représente, des gens qui font le lavage le soir, puis des laveuses mal balancées, tu sais.
Les laveuses qui avancent tout seul, là. Ouais.
Ben, souvent, en logement, t'as pas la plus neuve aussi. Ouais. Pendant un bon bout, c'est les étudiants.
Puis la solution, c'est-tu l'augmentation des prix pour qu'on se dise, oh boy, ça vaut cher, là, cette lumière-là, allumée dans cette pièce-là. C'est-tu ça, la solution?
Ben, si c'est ça qu'ils veulent, c'est probablement la seule alternative qu'ils ont de dire, tu sais, voici une pointe de consommation, puis dans une pointe de consommation, ben l'électricité va être plus chère. Moi, j'encourage pas ça, c'est pas ça que j'ai le goût, mais s'ils veulent changer, s'ils veulent forcer un changement de comportement, c'est de même, ça va finir. Les sondages servent probablement à bâtir le fond de ça. Il faut s'attendre à vivre ça dans les prochaines années de plus en plus, je pense, malheureusement.
Puis avec des millions et des millions de voitures électriques qui vont être ici depuis 2035, là, parce qu'on les entend parler, là, tout le monde se munira d'un véhicule électrique depuis 2035. Sinon, il va y avoir des pénalités pour ce qui est des concessionnaires et des constructeurs. Ils vont faire comment pour fournir tout le monde?
Si tu veux vraiment ouvrir la porte là-dessus, je pense que ça va rentrer dans la catégorie des échéanciers qui seront tout simplement irréalisables. Je sais que dans l'actualité aujourd'hui, on parle des agences de santé. On avait un objectif irréalisable, puis finalement, on est obligé de reculer. 2035, si le monde n'est pas rendu là à juste avoir des voitures électriques, si les concessionnaires ne sont pas rendus là à juste vendre des voitures électriques, le gouvernement du Québec, c'est un pet dans l'univers. Ils ne seront pas capables de changer ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser ça par en avant indéfiniment. On avait des objectifs en frais de parc électrique. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque de Jean Charest. Quand il est arrivé avec ses objectifs, tout le monde est parti à rire. Voyons donc, on n'aura jamais ce nombre de véhicules électriques-là dans 10 ans. C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scoré par en dessous. 2035, peu probable, hein?
Ils vont repousser ça encore.
Ben oui, voyons donc.
Écoute, puisque tu en parles de Christian Dubé et du ministère de la Santé, ouais. On n'a pas le choix. Effectivement, la date butoir, c'était le 20 octobre. À partir du 20 octobre, toutes les régions comme Capitale-Nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval, Montérégie, ben, on voulait leur interdire de faire affaire avec des agences privées. Et là, ben, en entrevue à LCN, hier, le ministre Dubé en a profité pour annoncer on dit un sursis de 6 mois, là, mais il se donne un break de 6 mois
ben
pour
oui.
continuer à travailler on, sur le dossier.
On va se rendre jusqu'à la prochaine élection, pas mal sûr.
Ouais, et pour ce qui est des gens qui sont dans des milieux de vie pour aînés, qui sont privés, ben eux, on a repoussé la date jusqu'en 2025 pour avoir accès à des infirmières au privé. Qu'est-ce qu'il faut que le système de santé québécois comprenne pour que les infirmières qui sont au privé décident de réintégrer le système tel qu'il est là actuellement, un système public?
Ça prend des meilleures conditions, ça prend des meilleurs salaires, ça prend plein de choses qu'on n'est pas capable de leur fournir. Puis c'est pour ça que le privé devient alléchant pour tout ce personnel-là. Moi, si j'étais dans ce domaine-là, c'est sûr que j'aurais un œil sur le privé qui a des conditions beaucoup plus agréables. Puis à partir du moment où ça existe, à partir du moment où tu n'es pas capable de concurrencer un domaine comme celui-là, t'as comme pas le choix de l'intégrer, puis t'as comme pas le choix d'utiliser sa collaboration. Puis je pense que c'est un porte-parole des médecins spécialistes qui disait, nous autres, dès le départ, on le savait que c'était des objectifs qui étaient irréalisables. Puis le ministre, il n'est pas descendu sur le terrain pour nous parler. Il a gardé l'objectif.
L'erreur.
Puis on revient souvent à ça dans tous les dossiers des politiciens. L'image est facile, là, tu sais. Le politicien au sommet de sa tour d'ivoire qui a des beaux objectifs utopiques puis qui essaie de les imposer par en bas, mais qui n'a pas de solution, qui n'a pas de moyen d'y parvenir. C'est juste, la date est là, il faut se rendre là. Ouais, mais on ne se rendra pas. Pourquoi? C'est l'objectif. Ouais, mais on n'a pas les moyens. On est-tu prêt à scraper encore plus notre système de santé pour atteindre un objectif idéologique qui est irréalisable? Parce que je pense qu'on l'a fait du côté de la Côte-Nord, puis ça a fait en sorte qu'il y a des services importants au niveau du système de santé qu'on n'était plus capable de fournir.
C'était des 3 heures là, de route entre Sept-Îles et Baie-Comeau. Quand ça a fermé, c'est 3 heures. Oui. Là. Puis tu sais, si tu as une urgence, tu fais quoi? Il y a des départements d'obstétrique aussi qui ont fermé. C'est inquiétant si jamais tu n'es pas capable d'avoir des soins rapidement. Dans le bas du fleuve, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui nous écrit qu'il faut être immensément naïf de croire que ça peut fonctionner sans le recours au service d'agence privée. Dubé rêve comme un enfant devant des étalages de bonbons hors de prix. On dit que c'est le meilleur à ce poste depuis longtemps, mais la personne qui dit ça est vraiment facile à impressionner parce que quand tu as compris que ton mur de Gibraltar est fait de briques syndicales, tu continues de rêver. C'est quelqu'un qui nous a, noté ça. Je trouve ça très bien dit. Puis honnêtement, moi, je me demande si c'est pas une question d'ego aussi. Puis ça me dérangerait énormément, mais on dirait que dans les dernières années, j'en ai vu beaucoup en politique, de mon hypothèse personnelle, de se dire on arrête ça parce qu'on est en train de peut-être miner notre système de santé avec une genre de désertion du public vers le privé parce qu'on a failli à nos tâches puis aux conditions qu'on offrait à nos employés, au stress qu'on leur impose puis à la qualité de service qu'on a.
C'est parce que quand ça presse, il y a des gens qui décident de serrer la ceinture pour avoir leur juste parce qu'il y a un paquet de services qui ne sont plus disponibles rapidement. Puis là, on n'est pas sur la Côte-Nord, on est dans la région de Québec. Vous avez des problèmes d'allergie à régler avec un de vos enfants, bonne chance. Faut y penser avant qu'il soit allergique quasiment.
Avant qu'il naisse. Ben, c'est comme les garderies maintenant.
C'est quasiment ça. Tu sais, dans ma région, au Saguenay, moi, je connais des gens qui ont besoin de suivi pour le cancer annuellement et qui ne sont pas capables parce que les services ne sont pas capables de fournir. Normalement, quand tu as un cancer, tu as un suivi annuel.
Regarde, la mère de mon amie. Oui. Okay, elle venait de finir des traitements de chimio. Elle allait vraiment bien.
Dans quel coin?
Dans Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis ils ont passé un super été, ils sont allés en Gaspésie et tout. Puis ils ont, pour une raison X, justement, pas eu de disponibilité pour son suivi. Mais la métastase, elle a doublé. Elle est doublement plus grosse que celle qu'il y avait. Puis, c'est super tragique. Là, le reste de sa vie est compté maintenant.
Mais Christian Dubé, ça va pas nécessairement bien. Ils se sont toujours pas entendus avec l'AFIC.
Ouais.
Donc, c'est pas réglé. Non. Puis, tu sais, je vais être très honnête, puis ça se peut que ça me revienne sur le nez, mais quand c'est vrai, c'est pas grave quand ça te revient sur le nez. En discutant avec ma conjointe et ses amis qui sont infirmières, ils ont l'impression que Christian Dubé veut faire crever de faim les infirmières qui sont au privé pour que ces infirmières-là qui veulent travailler réintègrent le système public. Puis ce que leurs amis, du moins, mentionnaient, puis je trouve ça atroce, mais en même temps, ça va peut-être nous faire rire un peu. Il y en a qui font semblant d'être malades à long terme pour ne pas réintégrer ou ne pas revenir au boulot. Tu sais, t'es dans un hôpital, ça fait des années que t'es infirmière, t'essaies de changer les choses, ça fonctionne pas, tu dis, ben regarde, je vais aller voir mon médecin, puis je vais avoir un petit congé. Puis des fois, c'est 2, 3, 4, 5, 6 mois de congé, là. Puis les filles, ils le font. Ils disent pas que sont juste écœurés, dans le fond. Ils disent, je file pas, je passe mon temps à broyer, je suis plus capable de faire mon travail, je suis nerveuse, je fais des erreurs. Le médecin dit, OK, là, tu fais des erreurs, on va te donner un break. Mais les filles le disent. Si ça fait pas, moi, aller voir le médecin, il m'a dit, je suis malade, m'a sacré mon camp. C'est une catastrophe.
Oui, puis en même temps, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent justifient souvent des arrêts de travail. Tu sais, t'as pas à faire semblant. C'est des gens qui ont des vies entre leurs mains. Toi, moi, on fait une erreur. Le lendemain, on revient, on s'excuse, on passe à autre chose. Ces gens-là, les erreurs, il faut qu'ils vivent avec. Les erreurs, ils peuvent avoir des impacts majeur. Tu sais, on avait eu des problèmes avec un paquet de rendez-vous qui avait glissé entre deux cracks. Là, ça avait fait les nouvelles au début de l'été, ici, dans la région de Québec. Puis je pense qu'on a été chanceux parce qu'au total tout, il n'y a pas eu de problème. Mais tu sais, si tu avais un rendez-vous de suivi, puis finalement, ils ne t'ont jamais rappelé, puis tu n'as pas eu ton rendez-vous de suivi, ton histoire, Pascal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien ça, c'est des conséquences tragiques. Des gens qui vivent ça au quotidien, puis qui se disent, « Hey, ce monsieur-là, finalement, il a le cancer. On ne l'a pas trouvé à temps parce que le système n'a pas été capable
ben,
de
M.
le... »
M. Teasdale, qui est décédé récemment.
Jean Teasdale, un bel exemple. Un bel exemple, un triste exemple.
Ils ont juste oublié de le rappeler.
Ben oui, c'est pas drôle, hein?
il va y avoir une poursuite nécessairement, mais cette poursuite-là, ce qui est dommage, c'est que ce ne sera pas les gens qui étaient directement impliqués dans le dossier qui vont être poursuivis. Ça va être le gouvernement du Québec, ça va être nous qui allons donner l'argent à M. Teasdale et sa famille pour essayer de réparer les dégâts que ça a causés, puis pour qu'ils puissent se faire aider aussi si ces gens-là ont besoin d'aide.
Mais je ne sais pas pourquoi on stresse avec tout ça, parce que la nouvelle agence là, de santé là, qui ont nommé des superstars, puis tout ça, ils vont tous régler ces problèmes-là. Voyons, ben oui.
Mais regarde, on a fait une entrevue cet été.
Les Patrick Lainé du système de santé, ils vont tout régler, voyons donc.
Avec les protecteurs des malades, là. Puis ce qu'ils ont dit, c'est que les gens qui ont été nommés, ils ont quand même confiance, mais que si ça ne fonctionne pas avec eux, ils perdent toute confiance et c'est terminé. Ben. Les gens qui travaillent à défendre les patients, à défendre les malades depuis des dizaines, des vingtaines d'années, disent que c'est vraiment la dernière chance. Après, allez-vous démissionner parce que vous allez sentir qu'il n'y a plus rien à faire? Bien, on y pense. Ça a été la réponse.
Dans un système comme celui-là, puis je veux saluer une de nos collaboratrices, Élise Berger-Pelletier, urgentologue, qui essaye d'aller sur tous les comités pour essayer de parler des problèmes du terrain, puis qui pense encore qu'on peut grandement améliorer notre système de santé. Puis à chaque fois que c'est un nouveau ministre qui arrive avec ses nouvelles recettes miracles, tu sais, tu te décourages un peu, puis tu fais, bon, faut recommencer à expliquer nos affaires, puis à expliquer le pourquoi du comment. Souvent, ces gens-là se battent contre des gens qui sont un petit peu plus rébarbatifs au changement, parce qu'il y en
a... Les sous-ministres.
Entre autres, oui, tu sais, qui aiment la façon de faire, qui aiment
les
leurs conditions. Les
fonctionnaires encrassés.
Ben oui.
Même,
bravo à tous ces anges dans le système de santé. Je te dis que vous n'avez pas le découragement facile.
Denis Ravel, c'est toujours un plaisir. On t'écoute tantôt dans le retour avec toute ton équipe. Yes. Puis je pensais pas que t'allais me choquer à soir, honnêtement.
Écoute, c'est...
Entre le gars d'Harmonium puis moi, il me semble que c'était facile à choisir.
Le pire, c'est que ça m'inquiète un peu de te laisser sans surveillance, mais t'es un grand garçon. Prends de la bière, prends du pop-corn, amuse-toi à la NSPW.
Ouais, on va être au stade Canac ce soir. Puis Pascal, elle va peut-être venir, qui sait, si je réussis à la convaincre. Midi 29, on vient.
Marceau, le soir.